align. In the world of spicy talks, they're the defining line.
Bienvenue sur Spicy Talk, je suis très heureux de vous retrouver pour un tout nouveau format qu'on lance aujourd'hui. Spicy Talk, c'est quoi ? C'est un mix de conversations, ce qu'on a l'habitude de faire finalement sur Serial, mais en format table ronde, avec des entrepreneurs très cool qui sont déjà passés sur Serial, et un mix avec des petits jeux, du divertissement, évidemment des choses épicées que vous allez découvrir, notamment sur la partie 2. Aujourd'hui, je suis accompagné de trois entrepreneurs qui sont déjà passés sur Serial. Le premier, c'est William de Bocu. Salut William, comment tu vas ?
Je suis en pleine forme. J'ai super hâte.
La deuxième entrepreneur, c'est Valentine Soda. Comment tu vas, Valentine ?
Ça va super bien. Je suis ravie d'être là et je suis terrorisée.
Moi aussi, c'est pareil, tu vois.
Nickel. Top.
C'est exactement le même mood, surtout pour la partie 2, notamment. Et le troisième entrepreneur, c'est Alex Raffetin de Perifiche, notamment, de Brain Lab. Il y a tellement de boîtes que c'est impossible de le définir. Tu vas bien ?
J'ai peut-être mon verre cet après-midi, donc on verra. In the biz world, it's hot.
La partie 1, l'idée, c'est de poser un peu les fondations de l'année, entre guillemets, voir un peu ce qui s'est passé sur 2023, avec une question qui est hyper simple, c'est est-ce que vous êtes heureux de votre année ?
Ouais, franchement, à titre perso ou pro, très content de l'année 2023. C'est la deuxième année du coup pour Bocu, et ça représente toujours beaucoup de challenges, parce que la première année, quand on a un concept sympa et qu'on est un peu viral, bah ça coule tout seul. Puis au bout d'un an, ça a tendance à se calmer. Donc ensuite, le vrai travail commence. Et là, on surfe plus sur une vague de viralité organique, entre grands guillemets. Et donc, il y a de nouveaux challenges d'acquisition beaucoup plus concrets, des stratégies qui doivent être bien plus définies. On peut plus laisser de place à l'erreur, parce que quand on est bootstrap, mourir dans la deuxième ou troisième année pour une DNVB française, ça arrive assez fréquemment. Et donc, on sait qu'on a eu beaucoup d'enjeux cette année. On est hyper content de les avoir relevés, on tient la route et du coup, ça se passe bien. Je suis très content.
Ok, donc une deuxième année de qualité finalement.
Ouais.
Dans la continuité de la première.
Ouais, c'est ça.
Et toi, Valentine, ça s'est passé comment cette année ?
Ça s'est super bien passé cette année. Sur le plan pro, ça s'est super bien passé. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai fait un deuxième recrutement, puis on est resté à deux. J'ai signé le premier bail de mon bureau, donc je suis super contente.
Cool.
J'ai doublé mon chiffre d'affaires. Moi, c'est que ma deuxième année d'entrepreneuriat, donc je découvre un peu en même temps. Je prends beaucoup plus de recul avec les réseaux. Mon business était sur LinkedIn. Je forme les indépendants à publier sur LinkedIn, choper des clients. Mais je prends beaucoup plus de recul. J'arrête d'associer mon offre ou ma prise de parole toujours à moi qui je suis. Je développe beaucoup plus d'activités du marketing fastoche. Du coup, maintenant, je vois plus ma boîte comme une boîte, justement. Je me pense moins comme une freelance. J'ai l'impression d'être une vraie entrepreneuse. Avant, tu vois, tu m'aurais invité à cet endroit, je me serais dit, ah non, c'est pas possible. Je suis avec deux chefs d'entreprise. Sauf que, ben non, je suis chef d'entreprise aussi, tu vois. Et du coup, je suis hyper contente de ça. Et c'est plus, ouais, la boîte a bien grandi, c'est cool. Mais c'est bizarre, j'ai presque pas de doute sur le fait que ma boîte va être cool et que je vais faire des trucs cool. Par contre, perso, je suis fière d'avoir dépassé certains paliers et j'ai l'impression que j'ai une meilleure vision et je me sens plus droite dans mes bottes maintenant.
Ouais, tu sens que tu as gagné en assurance sur tout ce que tu fais, quoi. Super. Et toi, Alex ?
Bah, c'était cool. Non, franchement, meilleure année de ma vie. Donc, surtout les. Ouais, bah, 2022, c'était un peu dégueu.
Ouais.
Et
on en a parlé dans le podcast sur fin 2022.
C'est vrai, on avait parlé de la chamane et tout.
Exactement.
Mais mec, elle m'a changé la vie vraiment cette meuf. Elle
a traversé, un peu une dépression, un mini burn-out.
Ouais, tout d'un coup. Et non, là, en vrai, franchement, tout va bien. Du coup, c'est à Green Bull qui sont rentrés sur Perifiche en début d'année et qui ça se passe super bien. Qu'on a un gros plan de développement en cours là, avec je pense entre 5 et 10 ouvertures qui arrivent l'année pro.
En mode franchise.
En mode franchise et après c'est censé y aller exponentiellement. Et là ils sont rentrés sur l'agence là, sur Brain Lab. Pareil pour un peu accélérer, sachant que pareil en vrai ça tourne bien sans trop confort. Donc tu vois là on va faire à peu près x2 sur par rapport à l'an dernier. Donc franchement c'est cool et voilà, et là on prépare un gros lancement de formation, il y a tout qui est prêt là, ça arrive en janvier. Du coup c'est mon gros focus.
Avec Axel du coup ?
Avec Axel et Green Bull. Axel va beaucoup plus être sur l'agence, moi je prends un peu de recul et moi j'ai beaucoup plus me concentrer sur cette formation et sur tout le côté un peu éducation, infoprenariat, c'est pour aider les gens à se lancer quoi. Donc on a un truc sympa, on est 5 dedans à intervenir, il y a 50 heures de contenu. On a fait un truc quali, passé 3 mois dessus, je bossais dessus avant. Donc écoute, on va voir, hein. Mais franchement, cool. Et pareil, niveau perso et tout, je sais pas, je me suis senti bien, quoi.
Vous avez passé tous les trois début d'année de ouf, en fait.
Ouais, franchement, ouais. 2023, c'est une bonne année.
C'est
ouais.
un grand cru, quoi.
C'est ouais, un grand cru, ouais.
ouais. Et toi?
Bah, moi, écoute, ça a été une très bonne année aussi. En fait, c'est entre guillemets notre première année d'activité, puisqu'on conclut notre premier bilan comptable, on va dire, le 31 décembre. Donc non, on a été bien au-delà de nos objectifs. On a fait x2 sur nos objectifs, donc c'est cool.
C'est pas mal.
Puisque nous, on a deux activités, on a le podcast et l'agence de podcast qui s'appelle Tête de Tigre. Donc non, c'était très cool. Évidemment, 2023 a démarré de manière assez, assez cool avec Forbes, le prix sorti et ressorti.
Mmh. Eh oui.
Donc ça, ça a été évidemment bien un joué, giga hein. booster.
BG,
bravo,
dès le mois d'avril.
Ça t'a apporté beaucoup de
franchement,
business.
Franchement, ouais.
Okay.
Beaucoup de business, beaucoup de connexions, okay, beaucoup de rencontres.
Puis quelle gratification, c'est incroyable.
Et c'est vrai que c'est quelque chose qui t'apporte de la légitimité d'un point de vue extérieur. Ah, c'est toujours gratifiant, tu vois, de recevoir de la légitimité, entre guillemets.
Ouais, carrément.
Donc ça, ouais, ça a apporté de la notoriété aussi. Et en fait, on a aussi surfé sur cette vague, et ce qui nous a ouvert plein d'opportunités par la suite. Et non, du coup, une putain d'année, on peut le dire, hein, clairement.
On a le droit.
Exactement. J'ai deux petites questions sur cette année. Est-ce que vous pouvez me parler de votre plus gros down, s'il y en a eu un, sur cette année 2023? Est-ce qu'il y a eu un moment particulier qui a été peut-être un peu plus bas que tous ces autres moments stylés?
Franchement...
Si tout a été au top, franchement, nickel.
Franchement, bah moi, mon plus gros down, il était fin 2022, tu vois, donc il y a un an pile. Mais là, non, franchement, cette année, genre, je crois que j'ai pas été une fois vénère de l'année, quoi. C'était tranquille.
Alors, t'as fait un petit break, Alex, un break d'alcool? Si je dis pas de bêtises.
Ouais.
Est-ce que tu peux m'expliquer ce petit break?
Tu nous expliques.
Parce que Alex, quand même, pour le dire aux gens qui vont regarder ce podcast, enfin cette vidéo, t'es quand même ultra fêtard. Il faut le dire.
C'est mon entourage qui me pousse, qui me pousse dans ses travers.
Donc, je sais que t'as fait un break de, je sais pas, 6 semaines, je dirais.
Ouais, j'ai fait 50 jours. Ouais. Bah, en fait, bah, tu vois, j'en parlais souvent avec Roger et en fait, il me dit que je suis trop intense dans tout ce que je fais, tu vois. C'est-à-dire que, en gros, ça fait 2 étés où je fais un burn-out de vacances. Donc, c'est-à-dire que même si je travaille encore un peu, tu sais, à force de voyager, faire la fête et tout, t'es dans une zone un peu de confort sur tes business et j'aime bien à chaque fois essayer de me dépasser et te dire à la fin de la journée, ben, on va dire, j'ai fait le maximum pour faire avancer les choses. Et là, je sais que j'étais en strict minimum. Donc, quand tu fais ça pendant 2-3 mois dans l'année, tu vois, parce que l'été dure assez longtemps à chaque fois, j'aime bien me remettre, tu vois, on dira à fond dans le truc. Donc là, j'ai fait encore plus extrême. Moi, j'ai pris coach de sport, donc programme alimentaire sportif, pas de resto, d'activité. Je crois que j'ai fait 2 restos en 50 jours, une fois avec toi. Mmh. On avait bouffé un soir et une autre fois, pareil, avec des potes, mais c'était pour le business. Et ouais, du coup, pas d'alcool et tout.
Je t'ai mis dans un mood athlète de haut niveau, quoi.
Ouais, enfin, oui, à mon niveau, quoi. Mais pour le coup, tu vois, au bout de 50 jours, j'étais pas en mode c'est enfin fini. J'étais dégoûté que ça finisse. J'étais trop triste.
Oh.
Franchement.
Donc, ce n'était pas un choix, cette fin.
Hein?
C'était pas un
non,
choix.
Non, en vrai, j'ai kiffé. Mais tu vois, genre, c'est des trucs où tu peux pas tenir toute l'année. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est intéressant de le faire par petite période.
Ouais,
tu
de le tester au moins sur un mois.
Ouais, en mode challenge. Parce que si je fais ça toute l'année, je me suicide, quoi. À la fin, le rythme, il est trop. Non, le rythme, il est vénère, tu vois. Ouais. Genre, j'avais des programmes d'habitude tous les jours, etc. J'étais en mode vraiment robot, quoi.
Okay.
Donc, c'est bien parce que franchement, en un mois et demi, je travaille comme si je travaillais 3-4 mois pour une personne qui a pas de rythme comme ça. Mais après, voilà, tu sais que c'est important de décompresser un peu.
Ouais, clairement.
Et de faire la fête.
Exactement. C'est une très bonne reco.
Exactement.
Et toi, Valentine, c'était quoi? Est-ce que tu as eu un moment de down particulier cette année?
Ouais, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est mon copain qui m'a dit, il me dit au début, tu te rendais compte, tu mettais ton réveil à 7h du mat, puis 7h30, puis 8h30, puis 9h, 9h30, 10h. Puis tu rentres à la maison à 16h30 et tu dis, pouah, quelle journée. Et moi, je me rendais pas du tout compte de ça. Je suis en mode, non, je fais mon taf, tranquille. Il me dit, non, il me dit, je pense que tu devrais prendre un peu de temps. Et il m'a dit cette phrase qui me choque parce que lui est pas du tout dans l'entrepreneuriat. Il m'a dit, il faut que tu sois un petit peu plus dans le décisionnel plutôt que l'opérationnel.
Gros sujet.
Oh, bah, déjà, tiens. J'ai cherché le dico où il avait trouvé ça. comme une ouche, wow, c'est fou.
T'as demandé à ChatGPT.
Vraiment, je crois. Et je suis en mode, ok. Du coup, j'ai pris un peu de temps. Alors déjà, j'ai arrêté l'alcool aussi. Et ça va faire un peu plus de 2 mois maintenant, plus parce que j'aimais pas trop la personne que j'étais quand je buvais. Le côté un peu sympa, accessible, valoche, bonne pote, bah il était à l'extrême. Du coup, bah des fois je me décrédibilisais dans certains événements pro. Et avec les potes, je sentais qu'on attendait ça de moi. Ah, tu vas nous faire marrer ce soir. Et du coup, quand j'ai voulu arrêter, je me suis dit merde, elle est où ma place ? Du coup, dans les soirées, si je suis plus celle qui sert les verres, si je suis plus celle qui fait qui ça, tu vois, pour les demandes de minuit. Comment je fais? Et au final, ça va. Tu retrouves vite ta place, tu trouves vite quelque chose. C'est pas facile, franchement. Même aujourd'hui, là, ça fait 2 mois. J'ai fêté mon anniversaire sobre. Ouais. Même Noël sobre. Même Nouvel An sobre, ça va être un événement. Mais ça va le faire. Franchement, ça va le faire. Je suis bien entourée. J'ai des potes qui sont super. C'est ce qu'on en parlait juste avant de tourner, là. C'est plus dur, les événements pro. Parce que du coup, bah, l'alcool, c'est la petite bière avec le client, ça fait plaisir. Quand tu refuses, il y a tout de suite ton truc de « Ah, ça va être sérieux ». Non, c'est pas sérieux, c'est juste que c'est une grenadine, quoi. C'est, voilà. Donc ça, c'était le moment un peu chiant. Mais c'était il y a pas si longtemps. Du coup, comme j'étais trop dans l'opérationnel et pas assez dans le décisionnel, je suis allée au Bichot d'Aline The Bee Boost, qui est en fait un espèce de grand séminaire en fait sur deux jours avec des intervenants, etc. Et je suis vraiment allée en mode « Je viens pas démarcher, je viens pas réseauter, je viens juste prendre ». Donc je suis arrivée comme un livre ouvert, je me suis fait retourner le cerveau par des speakers qui étaient incroyables, il y avait Michael Aguilar, il y avait Raphaël Torel.
Putain, Michael Aguilar.
Péter le crâne. C'était incroyable.
Ah, tu rigoles ?
Non, je sais pas.
Parce que j'avais fait trois jours de... Quand, tu sais, j'avais lancé Perifix, j'étais chez Microsoft en parallèle en CDI, et il avait pris, on était 6, et il était venu nous former pendant 3 jours. Mais je savais pas qui était ce mec.
Ah.
C'était il y a longtemps, c'était il y a 6 ans. Ah, c'était incroyable.
Incroyable.
Du coup, j'ai dit, ouais, je disais à mes potes, putain, il y avait un mec trop fort, Michael Aguilar. Ils m'ont dit, mais quoi?
Tout le monde connaît Michael Aguilar.
Ah, ouais. Je viens de passer 3 jours avec lui, c'était incroyable.
Non, il est incroyable. Il m'a vraiment pété le cerveau, et j'essaie de faire maturer tout ça dans ma tête. Et je me suis réveillée un matin en me disant, il y a un truc qui m'emmerde là. Qui m'embête.
Tu peux dire en merde.
Il y a un truc qui me fait chier, je te le dis comme ça, François, ça me fait chier. À chaque fois que je veux tourner un podcast, que je veux tourner une vidéo, il faut que je monte à Paris. Moi, j'habite à Nantes, c'est 2h30 de train, c'est pas la mort non plus. Mais tout ce qui est bouchon, tout ce qui est métro, dès que je peux, je prends un Uber. Enfin voilà, je suis pas très très fan de Paris, ça m'embête et ça me rajoute une charge mentale. Et j'en parle un peu autour de moi et mes potes entrepreneurs commencent à dire ouais, c'est vrai que c'est chiant, puis il y a 2-3 boîtes, c'est tout. Enfin, on n'a pas trop de choix. Et je me dis tiens, si je montais un studio vidéo podcast à Nantes. Et entre le temps où j'ai eu l'idée, en parler à ma comptable, en parler à ma bancaire, avoir le prêt, visiter des locaux, signer les locaux, commencer les travaux, il s'est passé 3 semaines.
Waouh. Oh, t'as speedrun l'entrepreneuriat.
Ça se voit que tu bois plus. Hein.
Ouais. Je m'ennuie à mourir.
La productivité, elle est valentine,
messieurs, dames. Non, c'est vraiment cool. Et du coup, bah, là, je suis en plein dans les travaux. J'ai de la peinture encore sous les doigts. Et...
Ah bah, félicitations.
Ça ouvre en janvier. Du coup. Janvier.
Ah ouais, putain.
C'est dingue.
Ah ouais, ça allait vite.
Ouais. Wow. C'est cool. Et là, du coup, je me lève le matin avec une patate. J'ai mes bureaux, du coup, qui sont beaux. J'ai mes murs qui sont verts et roses. J'ai mes gants et j'ai mes offres qui sont prêtes. J'ai le site web qui est en train d'être fait.
T'as trop stylé.
Ah, c'est stylé, ça, effectivement.
Donc ça, c'est la patate. Merci.
Ah ouais.
Dingue.
Et toi, pas de down cette année?
Bah moi, j'ai pas arrêté l'alcool.
Ok. Peut-être c'est lié, en fait.
Peut-être que voilà. Non, par contre, j'ai arrêté Instagram pendant un mois.
C'est vrai.
En novembre. Chaud, et je pense que c'est plus dur d'arrêter Instagram.
Ah ouais.
Oui, je pourrais pas, je crois.
Surtout quand je fais beaucoup de personal branding avec Boku. Et du coup, j'ai confié mon compte perso à mon community manager qui gérait à la fois le compte de Boku et mon compte perso. Parce qu'il y a des contenus pro qui y passent et des demandes pro qui passent des fois par mon compte perso. Et le mois de novembre, c'est le plus gros mois de l'année pour quasiment tout le monde. Il y a le Black Friday, Cyber Monday, tout ça. Et il y a toujours beaucoup de choses à faire. On a beau se préparer, en fait, c'est toujours un peu tendu. Il y a toujours des petits problèmes dernière minute, puis on prépare aussi Noël. Et je me suis rendu compte que, de base, quand tu vas sur Insta, un peu comme quand tu vas sur Messenger, mettons, tu vas pour discuter avec des gens. Et en fait, très vite, tu te rends compte que tu discutes pas avec des gens, mais en fait, tu es juste là à scroller sans arrêt. Et en fait, si tu veux, Insta, pour moi, c'est un peu comme si tu laissais ta porte d'entrée tout le temps ouverte. Et n'importe qui peut rentrer chez toi et te dire un petit truc. Ah tiens, au fait et tout. Et même ça, si t'as pas les notifs Insta, moi j'ai jamais mis les notifs Insta. Et je me suis rendu compte que c'était un gouffre à demande sociale extérieure et tu t'en rends pas compte. Et rien que le fait de considérer également la vie des autres en regardant leurs stories et le fait qu'ils regardent tes stories, ça te crée une charge mentale. Et franchement, je me surprends à dire ça parce que je crachais un peu sur le mec qui disait « Oui, arrête Insta, tu verras, c'est bien et tout ça. » Mais j'ai pas eu le choix de le faire parce que j'ai eu beaucoup de travail à un moment donné, des soucis perso aussi. Et je me suis dit « Wow, ok, c'est too much. » c'est too much. Et puis voir les potes à gauche, parler aux autres à droite et tout ça, c'était des charges mentales, des tâches en plus à faire. Et je me suis dit, ok, il faut que je me focus. Et donc j'ai mis une story, je me casse d'Insta pour un mois. J'ai coupé Insta dans la minute. J'ai pas supprimé mon compte, mais j'ai désinstallé l'application. Et j'ai mis 3-4 jours à vraiment m'y faire. Au début, en fait, tu par réflexe, tu prends ton téléphone et t'appuies où était l'application, puis tu ouvres Shazam.
T'as TikTok
fait.
Ou pas?
Non, j'ai pas TikTok.
Ah ouais. Alors, en avance, toi.
Ou en retard, je sais pas, tu vois.
Hein?
Et donc j'ai mis plusieurs jours à m'y faire. Et au bout de 4 jours, c'était incroyable. Ah franchement, ça m'a fait un bien de dingue. Tu te sens mais tellement plus frais, tellement en forme et tellement plus focus sur le moment présent dans ton taf, dans tes relations aussi. Tu vois quelqu'un, bah t'envoies un message sur WhatsApp. T'envoies un message, tu es focus sur
qu'est-ce
quelqu'un,
que tu veux.
Un message. Et je me suis rendu compte que les gens qui avaient vraiment besoin de me parler, bah ils avaient déjà mon numéro. Et si c'était vraiment urgent, bah ils trouvaient mon numéro et ils trouvaient mon email. Et ça fait un tri de dingue. Et je suis revenu du coup après un mois et curieusement maintenant je suis sur Insta, mais je scrolle plus. Et je regarde plus les stories des autres. Genre, je mets des stories, wow. Mais je suis plus là à scroller. Genre, je vais juste voir le message.
Du coup, quand t'es sur ton tel,
ouais.
T'as quoi qui te fait perdre du temps?
Franchement, il y avait
juste Insta.
Il y avait qu'Insta.
Ah ouais, c'est sûr.
Après, moi, j'ai tous les messages WhatsApp, toutes les notifications, tout ça, les emails, entre autres. Mais j'ai rien qui me fait perdre du temps en tant que tel.
Parce que je trouve que le fait d'avoir le tel, des fois, je me fais ça, mais juste une après-midi, tu vois, où genre, je laisse mon tel chez moi. Et en fait, quand tu l'as pas sur toi, t'es bien, tu vois, t'es tranquille.
Ah ouais.
Mais le fait de l'avoir dans la poche, tu sais, il est là. Parce que moi non plus, j'ai zéro notif, ni rien.
Ah ouais.
Mais il est là en mode.
T'as la tentation.
Hey, ouvre-moi.
Bah ouais, c'est ça.
Viens perdre du temps avec moi.
Tu le fais bien.
Exactement.
Ouais. Je travaillais pour Apple.
Pas loin de ma soeur.
C'est moi la dernière pub de l'iPhone.
Mais il y a.
Et t'as tous les trucs. Enfin, et t'ouvres et c'est.
C'est un enfer, c'est un gouffre.
Il y a rien, il y a des trucs.
Il y a un truc qui fonctionne. Il y a deux trucs que j'ai mis en place qui fonctionnent bien pour ça. L'avoir dans la poche, donc ne pas le voir, ça, c'est pas assez efficace parce que tu le sens. Et quand tu le sens, ouais. Tu sais qu'il est là. Du coup, moi, je l'enlève de ma poche et je le mets genre derrière mon ordinateur.
Faut pas le voir.
Ce qui fait qu'il est pas dans mon champ de vision. Et deuxièmement, sur mon téléphone, je mets un chronomètre. Ce qui fait que quand je travaille, je mets un chrono. Et dès que je fais une pause, je peux en faire, mais je mets sur pause le chrono. Donc à la fin de la journée, je sais exactement combien de temps j'ai bossé. Et ça me permet de savoir si j'ai assez bossé la journée, la semaine, le mois, le trimestre et tout. Et curieusement, quand je fais le point sur
c'est un happening.
C'est pas mal. Et curieusement, quand je fais le point sur mon année, sur les temps forts et moins forts de Boku, les temps les moins forts, c'est ceux où je bossais le moins en termes d'heures. C'est intimement lié. Et du coup, mettre un chrono, ça te rappelle alors sans arrêt. Ah, il faut bosser en fait. Ok, donc je le repose.
Aujourd'hui, t'as une relation saine à Insta, malgré le fait d'y être
revenu. Oui. Franchement, ouais. Mais du coup, j'y vais plus que pour les messages.
Tu connais pas l'application OneSec?
C'est quoi?
Je l'ai découverte sur un bon moment. C'est Big Flo qui en a parlé. C'est absolument fabuleux, les gars. Et vraiment, je pense qu'on doit être dans le même délire. T'as l'application, tu la mets et tu choisis quel réseau social elle doit garder. Moi, j'ai mis Insta parce que toujours le réflexe d'ouvrir Insta.
Ouais.
Dès que tu ouvres Insta, ça ouvre OneSec. Ça te fait respirer profondément.
Ah ouais.
Et là, ça baisse. Donc, toi, t'es là, t'as respiré, t'en as marre.
Mais oui, et c'est écrit de plus en plus long et
voilà.
Tout.
Genre... Et c'est écrit, vous avez essayé d'ouvrir Insta tant de fois en tant d'heures. La dernière fois, il y a tant de temps. Est-ce que vous êtes sûr? Et moi, ça m'énerve que quelqu'un me dise, il est 8h30, c'est déjà la 12e fois. C'est bon pour toi. Et ça m'énerve. Et du coup, ça me fait prendre vachement plus de recul. C'est trop chouette. Et ça m'a bien aidé.
T'as ça intégré sur le temps d'écran aussi, sur les,
oui.
Les iPhones.
Oui.
Où tu dois déverrouiller un truc, machin.
Ouais, mais le temps d'écran, moi, je l'ai, mais je l'éclate à chaque fois, quoi, tu vois.
Ouais, t'as le temps d'écran, mais tu peux mettre des. Et tu peux verrouiller des applications sur le temps
avec
d'écran.
Des schémas
avec des on schémas fait un tuto, complexes etc.
Ah ouais,
en fait, fait ouvrir Instagram
les gars venez on parle que de ça. on résout ce truc, c'est beaucoup plus important.
T'as
que
TikTok, t'es accro à TikTok?
Bah moi c'est pour le
c'est
taf,
pour le
quoi.
Taf
c'est,
là,
pour,
ouais.
La... c'est pour le taf
j'ai supprimé mais j'ai dû remettre en vrai c'est un truc
en fait en vrai tu vois et tu vois, que ça soit pour moi en perso ou pour les restos ou pour les clients et tout je suis toujours obligé de regarder enfin toujours obligé
non mais t'as pas le choix
et en fait même quand j'y vais dans une démarche de pro. Je vais regarder vite fait un peu ce qui se fait, je me retrouve sur, je sais pas, un putain d'épisode tellement vrai là de 2012 qui te mettent en replay où ils te mettent un hook de fou et je regarde la vidéo 3 minutes.
Partie 1, partie 2, partie 3,
ouais,
partie 4.
Après je regarde combat alligator, enfin tu vois. Mais c'est trop fort, tu vois. Et vraiment, genre, je perds du temps, je le sais.
Ah.
Et ça, tu vois, je trouve que c'est trop mal fait. Quand tu veux chercher des choses, t'as pas de filtre, tu vois.
C'est tout ou rien, ouais.
Bah ouais, c'est ça, c'est la roulette russe.
Tu connais pas Léo Duff?
Non, c'est quoi?
Léo Duff sur YouTube.
Le goat.
Vraiment, vous mais non, mais goat. Incroyable.
Il passait sur Serial.
Arrête. Mais oui, c'est vrai. Ouais. Mais oui, c'est vrai. Mm. Bref, Léo Duff, il fait des vidéos qui sont d'une simplicité inouïe. Il te parle, t'as l'impression qu'il te raconte un truc, tu chuchotes dans l'oreille en mode c'est un petit secret. Et moi, il est en train de me vacciner des réseaux sociaux et des algorithmes. Okay. Il explique tellement bien comment on te manipule, mais tu sais, très, très factuellement, en mode voilà ce qui se passe, voilà de quoi t'es victime. Ça te vénère un peu dans le fond. Et à chaque fois que je sens que je suis un peu trop accro à un truc, je me remate une ou deux vidéos, ça me mm. calme. Il est incroyable dans sa création de contenu, ce mec.
En tout cas,
si un jour tu fais des épisodes croisés, je dis ça, je dis rien. Ouais.
Ah, c'est, mm. ça peut.
ça regarde.
Des petites tables rondes
au cas où,
avec
comme
des épices, tu vois.
Je sais pas. Ou pas, hein.
Non,
pas.
Carrément, c'est une très bonne idée. Du coup, ça, c'est très clairement deux addictions, au final, sur lesquelles on retrouve des similitudes, que ce soit l'alcool ou... les réseaux sociaux, finalement.
Ouais.
Cette discussion est devenue une table ronde de vieux grincheux.
On cherche des solutions. Non, mais on cherche des solutions
et du
à
coup,
nos problèmes.
On va passer à l'autre question, qui est à l'inverse des downs, vu que vous avez vécu une année de ouf. C'est quoi votre plus gros top dans cette année 2023?
Moi, j'ai un truc pro. En fait, on a les premières années de Boku, on a fait 1,8 million de chiffre d'affaires. Et je me rappelle du moment très précis où j'ai fait le premier million, qui est hyper impactant dans la vie d'un jeune entrepreneur. Et du coup, quasiment plus tard, un an plus tard, on avait fait 1 million en un mois. Et en fait, c'est important de prendre du recul par moment. Et tu dis qu'en un an, tu as réussi à faire ce que tu as à faire en un mois, ce que tu as fait en un an auparavant, quoi. Et pour moi, ça fait une grosse différence. Et du coup, j'ai regardé des vieux emails, des vieilles stats que j'avais d'il y a un an. Et je me suis rendu compte qu'on est passé d'une team de 2-3 à genre quasiment une vingtaine de personnes. Et je me suis dit, j'ai quand même accompli un truc assez fort. Parce qu'aujourd'hui, on bosse avec des mecs qui arrivent à vivre parce qu'on lave des culs. Tu vois? Et genre, se lever le matin en se disant ça, t'as des mecs qui payent leur crédit parce qu'on lave des culs, tu vois. C'est un truc de ouf. Moi, ça me rend dingue. J'adore ça. Et je me suis dit ça la dernière fois. Et je me suis dit, putain, quand même, c'est un énorme kiff. C'est un énorme kiff et ça durera le temps que ça durera. Et je me suis rendu compte de la chance qu'on avait de pouvoir entreprendre, de vivre de notre entrepreneuriat et de kiffer, quoi. Ouais. Donc, gros up à ce moment-là, j'ai réalisé la chance que j'avais et surtout le trajet que j'avais fait. Parce qu'on a tellement la tête dans le travail, on n'est jamais satisfait. La liste est longue. Si on voulait monter la boîte de nos rêves, on pourrait mettre des années à bosser dessus. Et prendre du recul, des fois, ça fait vachement du bien.
Est-ce que le premier million et le million que tu as fait en un mois, est-ce qu'il a eu la même saveur? Ou est-ce que le million que tu as fait en un mois, tu étais en mode... Ok, c'est cool.
T'as raison. Celui que j'ai fait en un mois, c'était ok, c'est cool. Ouais. Celui que j'ai fait au bout d'un an, c'était waouh,
voilà.
Je peux le faire. Et c'était pas de la chance. Donc ça fait une vraie diff aussi, hein, parce qu'il y en a qui font des millions par chance, ça arrive. Là, c'était pas de la chance. Et il est beaucoup plus impactant que celui que tu fais en un mois. Ouais.
Ouais, ok. Et toi, Valentine?
C'est hyper stylé. Je trouve ça hyper cool. Je réfléchissais. Je pense que c'est. C'est hyper récent, mais on est déjà un peu dans le deep. Moi, je sais que ce que je fais, cette activité que je fais, dans le fond, pour rendre fiers mes parents. Mmh. Mes parents sont déjà fiers. Je sais même pas après quoi je cours, je sais qu'ils sont déjà fiers, ils sont entrepreneurs aussi, ils suivent ce que je fais, mais ils comprennent pas toujours ce que je fais, ce qui est normal. Ils ont un business un peu plus imprégné local, ils sont pas trop tech, pas trop digital. Ils essayent de comprendre, ils sont super, ils m'aident beaucoup, mais je sais qu'ils comprennent pas forcément. Récemment, je pense en vieillissant, ils sont un petit peu plus... ils essaient de me protéger. Fais attention aux réseaux sociaux, à l'image que tu peux avoir, etc. Et ils ont pas trop compris l'ampleur que ça prenait. Et j'essaye de leur expliquer sans pour autant faire frimeuse. Dernièrement, quand ils m'ont accompagné chez la banquière pour essayer de choper mon prêt. On en parle, etc. Et là, je fais toute ma presse et je vois dans les yeux de mes parents le « Ah oui, quand même !»«
Ah oui,
ah oui, t'es là, tu vois !» Et j'ai vraiment vu dans leurs yeux le « Oh, elle a plus 19 ans, tu vois !» Genre là, on est à un step. Et je me souviens, mon père un peu posé la question à la banquière, bon, combien elle peut faire de chiffre d'affaires à peu près, est-ce qu'elle peut, elle peut peut-être atteindre les 100 000 ? Et là, je vois bien la banquière très froide faire « Hein, mais elle les a déjà dépassés !» Et mes parents, d'accord, bon, bah allez, on va y aller, c'est top, c'est super. Et je crois que vraiment juste, ouais, le regard de les deux yeux de mon père et de ma mère, de c'est bien, c'est chouette, c'est très très chouette. Plus la santé.
Tu parles pas avec tes parents du chiffre d'affaires que tu fais, ce genre de choses?
Si, un peu, mais en fait, ça me fait bizarre de dire à mes parents, parfois je vais en coaching, je vais en déplacement, je prends 3 500 la journée, quand eux vendent des sucettes à 30 centimes ou des entrées dans des parcs de loisirs à 8,50.
Et puis, ils visualisent pas, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, les miens, c'est... même peu importe les chiffres que tu leur donnes,
pas le rapport,
ils sont en mode
ouais.
Ok, c'est abstrait.
En fait, au-delà de 100 000, 200 000 euros, ils
mais tu vas réussir
pas
à vivre avec ça.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Puis en plus, mais ils connaissent, tu vois, les charges d'URSSAF. Quand je leur parle de recruter, ils sont en mode, te fais pas chier, les employés, ça coûte cher, tu vois. Ils savent, ils comprennent un peu mon salaire, ce qui se passe et tout ça. Mais tant que je pense que tant qu'ils me voient pas vraiment me régaler perso, bah le pro, c'est censé servir le perso, tu vois. Il y a pas vraiment de pour eux tout ce qui est se faire inviter sur des podcasts, faire des conférences à Paris, comme ça, Forbes Under 30, fout complètement,
mais
tu vois.
Mais mes parents ne connaissaient pas.
C'est ça. Ouais, tu n'es pas propriétaire.
Ouais, franchement, c'est en dessous de 40 ans, personne ne connaît.
Ouais, non, mais c'est clair.
Il n'y a que nous.
C'est des trucs.
Puis si tu n'es pas dans le business, entre guillemets.
Ouais, c'est clair.
Oui, oui, je trouve que c'est encore plus important que d'avoir des millions. Pour moi, ce genre de reconnaissance, pour moi, c'est bien plus impactant que de faire des millions.
Bon, après, moi, après 3 millions ou un petit titre.
3 millions cash sans impôts. Je te l'échange.
Ok, je
défiscalisé.
Intéressant.
C'est quand même classe en fond dans les vidéos.
Oui, non, c'est
ouais, cool. Non, c'est clair. Non, en vrai, c'est un énorme.
J'aurais dû le ramener, tiens, le mettre au milieu.
Ah, s'il te plaît, s'il te plaît.
Ça a été beau.
C'est un énorme qui cache les invités. J'entends juste des gens parler, mais tu les vois pas.
L'enfer. Ok, donc la relation avec les parents, hyper importante pour toi. Et moi, je suis très aligné par rapport à ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que ce que vous faites aujourd'hui, c'est
vous êtes
pour rendre fiers vos parents?
Papa, vous êtes... d'avoir 25
non.
ans.
Non. Ouais, je sais pas. Hein.
Ça veut rien dire.
Oui, non, oui, ça peut arriver. Ouais. T'es papa, toi? Avec toutes tes petites fiches, là?
Non, 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 aucun enfant à déclarer. je travaille, quoi.
Ouais, c'est ça. Donc, rapport aux parents, pareil?
Ben, ouais, après, voilà, moi, mes parents, ils flippaient un peu, tu vois. Mon père, il était, en plus, putain, dans ma famille, du côté de mon père, tout le monde est entrepreneur, mais tu vois, j'ai pas du tout eu ce truc de fait de l'entrepreneuriat. C'était plutôt, tu vois, mon père était joueur de tennis pro, et après, il a monté son club. Et il était vachement en mode fait des études. Je pense que c'était plus le côté sécuritaire, tu vois, des parents. Et du coup, quand je me suis lancé, bah, ils flippaient un peu, quoi. Ils flippaient, ils étaient pas forcément pour. Et après, je pense qu'ils ont vu que ça commençait à marcher. Donc là, maintenant, tu vois, ils sont contents et tout. On en parle. Je sais qu'ils comprennent pas tout, forcément, parce qu'ils sont extérieurs à ça. Mais ils me laissent faire ce que je veux. Et en vrai, ils m'encouragent vachement. Puis en plus, mes deux petits frères, maintenant, sont dans l'entrepreneuriat. Tout le monde arrive à vivre de ça. Donc, ils sont, on va dire, un peu plus soulagés. Ils ont moins le gros stress des parents en mode, putain, est-ce que mon fils va faire faillite et je vais devoir le récupérer à la petite cuillère à la maison, quoi.
Je vous dis, il y a un truc de complexe avec les parents. Moi, j'ai découvert un peu après que ce dont mes parents complexaient, c'était que si je me plantais, ils pouvaient pas me sauver. Qu'ils avaient pas assez de côté, tu vois, pour rattraper si je faisais des très grosses conneries, tu vois, si je faisais des prêts que je foirais, si je me faisais arnaquer par d'autres entrepreneurs. Pour ça, dès que je parlais d'un nouveau partenariat, c'était toujours fais attention. Tout était toujours dans la douleur. Et moi, j'ai essayé de leur apporter un peu de joie, mais parce que il y a eu ce complexe-là de, eh ben, on aurait aimé te payer HEC, on aurait aimé t'envoyer à Paris, on aurait aimé t'envoyer dans un autre pays, que tu reviennes bilingue, trilingue, mais on n'a pas pu. Et moi, j'aurais bien fait comprendre de, t'inquiète, à l'heure d'internet, t'inquiète.
Un complexe.
Moi, c'était plus le côté, vu qu'ils connaissent pas. Tu vois, c'est un nouveau monde, en vrai, là, tout ce qui s'est passé les dernières années. Bah, ils étaient pas au courant que ça existait. Donc, quand je leur en parlais, ils étaient là en mode, mais c'est pas possible et tout, tu vois. Comme un peu quand t'as des mecs qui vendent des formations et t'as Jean-Michel, 55 ans, qui dit, ce sont des arnaqueurs. Tu vois. C'est juste qu'il a pas pris le temps de s'informer et de s'instruire. Et donc, c'était un peu plus ce prisme-là. Mais, je vois ce que tu veux dire. Intéressant.
Et toi, ton plus grand sommet? Et après, je dirais le mien.
Bon, c'est pas un truc de fou, mais, tu sais, depuis fin 2020, j'étais beaucoup à Dubaï, environ 4 mois par an, vu que j'ai beaucoup de potes là-bas. Et en fait, à un moment donné, on vivait à un hôtel sur la plage. Et c'est un peu là que tout a commencé, parce que tu sais, avec Axel, quand on a lancé l'agence, moi j'étais là-bas. J'ai commencé le business avec Perez, avec qui je vivais quand lui, il a lancé Golden aussi
Alexandre,
à ce moment-là. Ouais, Golden CBD. Et en fait, au moment où on vivait là, tu sais, on avait c'était pendant le Covid aussi à Dubaï, donc il y avait vraiment personne dans la ville. Et tu descendais, t'avais un petit bout de plage privée. Après, t'avais la plage de la Marina, mais elle était déserte. Donc moi, je faisais tous mes calls. C'est comme si j'avais la Marina en plage privée pour moi. Tu vois, il y avait zéro personne. Et donc à chaque fois, on se posait là le soir, et tu sais, on visualisait un peu, on planifiait et tout. Et du coup, maintenant, à chaque fois que je retourne à Dubaï, parce que là, je suis un peu moins, du coup, je me pose. Tu vois, je me pose là. Toujours, j'y vais toujours seul. Je me pose une heure et je repense un peu à tout ce qui s'est passé. Tu vois, les dernières années et tout. Et en vrai, bah là, c'est plutôt cool parce que ça a bien marché pour tout le monde, parce qu'on a travaillé en conséquence. Mais du coup, je vois l'évolution exponentielle chaque année. Je pense que logiquement, ça devrait continuer dans ce sens. Donc à chaque fois, c'est assez agréable de prendre du recul, tu vois, sur la situation. Comme tu dis, on a la tête dans le guidon tout le temps.
Je pense que c'est même crucial, tu vois, de
ouais.
chaque année se dire, ok, je sais pas, il y a 2-3 ans, où est-ce que j'étais, tu vois.
Ouais, et tu vois, moi, il y a un vrai truc que j'ai fait pour la première année, c'est que je me mets plus du tout de pression sur le développement de mes boîtes. C'est-à-dire que, bon, forcément, on travaille beaucoup, mais je sais que je pourrais faire plus vite, je sais que potentiellement, peut-être si j'en avais une au lieu de deux, j'en pourrais en emmener une plus loin, plus vite. Mais le truc, c'est, tu vois, comment tu vis tes journées? Est-ce que juste t'es épanoui, tu vois, dans ce que tu fais? Parce qu'en vrai, quand tu prends du recul, tout le monde veut des millions et tout. Mais la plupart, on a déjà plus d'argent que nécessaire pour vivre actuellement. Mmh. Ouais, je me dis, bah, j'ai largement de quoi vivre. Je kiffe ce que je kiffe hors de boîte, je peux bouger quand je veux et tout. Et je me dis, bah, du moment que je pense que t'es dans une zone comme ça où tu prends du plaisir tous les jours, c'est hyper important pour après développer tes boîtes. Et le truc de, ouais, ah, putain, on a fait que 500 000 ce mois-ci, on aurait dû faire 600 000, ça va pas et tout. Je pense que c'est là où tu peux te mettre un peu dans des zones rouges mentalement, tu vois. Même si tes boîtes, tu vas aller plus vite. Parce qu'en vrai, faire...
Puis l'argent, c'est un jeu sans fin, tu vois.
Ouais, c'est clair. Et je pense que c'est vachement important de prendre du recul par rapport à ça et se dire... Bah, le principal, c'est de kiffer, tu vois, ce que tu fais, tu vois. Et après, bah, tu verras. Et peut-être que dans 2 ans, j'en aurai marre, je ferai autre chose. Je pense qu'on sera tous amenés à avoir des multi-carrières. Tu vois, en mode, de, bah, là, on se bute sur un truc. Peut-être que même on montera une boîte tous les 4 dans 10 ans, j'en sais rien, tu vois. Et du coup, réagir avec un peu plus de recul sur ça.
Ouais, ok. C'est un bon sommet.
C'est super sérieux comme discussion par rapport à ce qui va nous arriver.
Ouais. Mais justement, c'est ça le principe.
Ça va être très contrasté.
Là, je vous mets bien, tu vois. On est à l'aise. Exactement. Et après, ça pique. avant de passer à la partie 2, alors oui, il y a 2 choses. Effectivement, moi, je vais y répondre aussi sur le top de mon année, entre guillemets. Je pense effectivement qu'il y en a eu plusieurs, mais celui qui a vraiment actionné tout ce qui s'est passé par la suite, évidemment, j'en ai déjà parlé, c'est Forbes. Parce que c'est vrai que d'un point de vue extérieur, on s'en rend pas compte, mais ça a de l'impact. Juste un exemple, 48 heures après avoir reçu le prix, enfin, avoir reçu la notif du moment où j'étais dans la liste, j'ai reçu un mail du cabinet d'Elisabeth Borne. Cabinet de la première ministre. Tu te dis, mais what the fuck, tu vois. Donc, ça, c'est un exemple, mais pour vous contextualiser un peu comment ça s'est passé, le prix Forbes sortie under sortie, ça fonctionne sur candidature à la base. Donc là, par exemple, les candidatures sont ouvertes pour 2024. Je vous invite, si vous avez moins de 30 ans, à candidater.
Merde.
Tu peux mytho. et en fait, c'est sur candidature. Et après, globalement, ils reçoivent 700-800 candidatures par an. Et ensuite, un jury d'entrepreneurs qui sélectionne finalement cette liste. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai candidaté vraiment en last minute, en mode sur un malentendu, ça passe, j'ai rien à perdre. Mais tu vois, un peu syndrome de l'imposteur, en mode je suis entrepreneur en province, à Rennes, je fais un podcast, donc c'est pas très sérieux. Une agence de podcast, c'est encore moins sérieux. Tu vois, c'est pas une startup qui a levé des fonds, etc., machin, qui génère des millions et tout. Donc tu sais, j'étais en mode, ok, je candidate, mais bon, vas-y. Au pire, j'aurais pas de regrets, quoi. Et en fait, un mercredi début avril, je reçois, donc en plus, c'était la journée de Go Entrepreneur, le salon à Paris, donc à La Défense. Et je vais à cet événement, et au moment où je suis à cet événement, je reçois une notif LinkedIn avec la liste. Et au moment où je reçois la notif LinkedIn, donc je vois les noms, au départ, je capte pas et je pense qu'ils listent les gens qui ont candidaté.
Ah oui.
Complètement con, tu vois.
Oh là là.
Mais c'était dire à quel point je m'y attendais pas. Et du coup, après, évidemment, je réalise, machin. Et en fait, ils te préviennent pas, Forbes. Ils te préviennent pas en amont.
Ok.
C'est-à-dire que une heure après, je reçois un call et ils me disent le magazine est disponible dans tous les kiosques. Et vous êtes dedans.
Non, c'est incroyable.
Ça, c'est énorme.
En plus, moi, mon nom de famille, c'est Allais. Donc, je suis en premier dans une liste où tu as Hugo Décrypte, Victor Wembanyama.
Incroyable.
Tu vois, une liste de malades.
Parce que c'est par ordre alphabétique.
Exactement.
Okay. Ça défonce.
Et donc, tu vois, et donc, forcément, je pense que je mets 24-48 heures à réaliser.
Bah, bien sûr.
Mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est comme ça que ça se passera. Voilà, pour le contexte. Il me reste une petite question avant de passer à la partie numéro 2. C'est quoi vos objectifs sur 2024 en 2-3 phrases finalement?
Je vais commencer pour ma part. Ouais. tu vois, tout à l'heure on disait que t'étais trop dans l'opérationnel. Bah, moi aussi, beaucoup, beaucoup trop. Je fais des semaines genre de minimum 50 heures. Enfin, je me bute au taf. Et c'est un plaisir. Mais c'est pas viable sur le moyen long terme, je pense. Et tu vois, toi, t'arrives à prendre du recul, à être moins tense, intense dans tes boîtes et tout ça. Tu prends beaucoup plus de recul. C'est un truc que j'aimerais beaucoup faire pour 2024. Mais j'aimerais cumuler cette sortie un peu de l'opérationnel, donc être plus sur le décisionnel, et en même temps faire encore plus de chiffres et encore plus atteindre encore plus d'objectifs. Donc c'est des vrais challenges. Et pour moi, pour les accomplir ces challenges, la réponse c'est les ressources humaines. C'est quels humains, quels talents tu veux embaucher. Donc pour moi, le gros challenge 2024, c'est de trouver des talents, de trouver d'autres humains qui vont m'aider à scaler, à faire grossir beaucoup. Parce que je me rends compte qu'on peut être techniquement très bon, mais que humainement, il faut que ça suive aussi. Et que quand tu trompes sur un talent, le mec va se buter ou la fille va se buter autant que toi. Et ça va faire toute la différence dans ta boîte. Et donc, en gros, pour nous, c'est gros recrutement. Continuer le lancement du B2B, donc lancement en hôtel, chez des grands distributeurs, etc. Innovation avec des nouveaux gros produits aussi, notamment des grosses toilettes japonaises, donc notre produit le plus haut de gamme. Et continuer à grandir l'équipe et attaquer de nouveaux marchés aussi. Donc des gros challenges.
Trop cool.
Ouais.
Bon, bah, let's go. Hein.
Ça te déchire.
Toi, Valentine.
C'est trop bien.
Qu'on fasse un épisode dans un an, là.
Ah ouais. Ouais, ouais. Ah ouais.
Avec les. Non, mais les RH, avec les annonces.
On se met tous sur des toilettes japonaises au cul.
Mais oui.
Avec les expliquants, c'est avec nickel, comme ça.
Équité. En podcast. C'est un bordel. C'est trop bien.
Un an après, que sont-ils devenus?
Non, mais c'est grisant, l'ambition. Quand tu vois l'ambition dans les yeux des gens, c'est génial. C'est trop cool.
Quel plaisir.
25 piges.
Putain. Ouais, mais ça, c'est faux, c'est fake.
Non, j'en ai 34.
Ok, ouais. Je ne les fais pas.
Ouais, je sais.
Il est père de 3 enfants.
Aussi, oui.
J'attendais une autre tournée. C'est déjà pas mal. Les ambitions pour 2024. Ouais, j'ai des ambitions pro, des ambitions perso. Puis bon, tant qu'on est dans ton podcast, j'ai envie de te dire, on va tout mixer. Hein. Niveau pro, je veux donc lancer mon studio marketing fastoche, mais je ne veux pas en lancer qu'un. Je vais en lancer 3 pour l'année 2024. Ouais, 2024. Je vais lancer 24. Je voudrais 3 studios marketing fastoche en 2024. Je voudrais conquérir le Grand Ouest avec cette offre-là. Vraiment une offre super simple. Franchement, je n'ai pas envie d'inventer l'eau chaude. Je vais me servir de l'eau tiède. C'est déjà pas mal. C'est ce que les gens cherchent le plus. Et bien brandé. Développer aussi ma notoriété sur d'autres réseaux. Je vais m'attaquer à TikTok, Instagram. J'aime bien la vidéo. Je passe bien en vidéo. Je me marre bien en vidéo. Donc, je trouve ça chouette de développer ça, développer le podcast aussi. Je vise x2 sur mon chiffre d'affaires que j'ai déjà x2. Par rapport à l'année dernière, donc ouais, à peu près 300 000 chiffre d'affaires, ce serait chouette. Ça, ce serait un bon objectif. Puis aussi, je pense à un peu d'ego de toute seule à partir d'une feuille blanche, tu vois. J'ai pas envie de m'associer, j'ai pas envie d'avoir des investisseurs, j'ai envie de vraiment construire mon petit truc, j'ai envie de kiffer le chemin. Et perso, je veux continuer le sport. Je n'ai jamais fait autant de ma vie. Et ça, c'est vraiment kiffant. Je commence à avoir du plaisir là-dedans. Il s'est passé un truc un peu chiant en 2023, c'est vrai que ça vient de me revenir, mais je me suis cassé le bras à l'escalade et j'ai enchaîné avec un stress post-traumatique à cause de l'avion. Je prenais l'avion régulièrement, j'ai jamais eu peur de l'avion, j'ai pris toute seule des petits, des longs courriers. Mais là, il y a eu un petit courrier pour aller à Barcelone où il y a eu une tempête et ça m'a fait un vrai stress post-traumatique qui était hyper long à gérer, où j'ai commencé à avoir des angoisses dans le train, dans la voiture, même dans la rue. Je me réveillais dans la nuit, j'avais l'impression d'être sur une boule qui bouge, donc j'étais jamais vraiment immobile. Oh, c'était chiant.
Ouais.
Je pouvais rien faire. Donc, régler ça pour de bon en 2024, ce serait chouette. Pour pouvoir, en juin, prendre enfin mes premières vraies vacances depuis que je me suis lancée en Asie, 3 semaines.
Qui seront bien méritées.
Qui seront, ouais, ça va être cool. Ça va être chouette. Donc, c'est les objectifs 2024.
Trop bien.
Pas mal.
Merci.
Putain, il y a trop de trucs, là.
Alors Alex, la liste.
C'est parti.
Là on aimerait bien en ouvrir une dizaine de paires et fiches sur l'an prochain. Sur Brain Lab, on va faire x2. Puisque du coup Green Bull est rentré, gère toute ma vie maintenant. Puisqu'on a fait une boîte aussi de marchands de biens avec Axel. Donc, c'est Green Bull qui on les appelle quand on...
Une bonne expertise, hein, sur le sujet.
Ah, c'est trop bien. Genre, on a dit, ouais, Benoît, c'est un des boss de Green Bull qui est vraiment le mec opérationnel hyper, hyper carré. Bon, les 5 sont trop chauds. Et, Et du coup, là, on a créé la boîte. C'était en 2-2. On a acheté un appart et tout. Je dis, ouais, Benoît, trouve-moi une banque qui me donne un prêt et tout. On était en soirée. Il me dit, tiens, appelle ce mec-là et tout. Je l'appelle. Boom, tac, prêt direct. Bon, en vrai, c'est pratique.
Ouais.
Il me gère toute ma vie maintenant, ces gars. Donc, non, c'est cool. Donc, ouais, objectif, du coup, x2 sur l'agence. Ça, ça va être beaucoup Axel qui va s'en occuper. On va commencer à vraiment recruter. Parce que là, on a un CDI, un freelance et une alternante. Donc, du coup, on est un peu en dilettante, quoi. Et après, ben, moi, le gros challenge, ça va être la formation, qui est un jeu très, très compliqué. Donc, ouais. Moi, ça va être mon gros, gros focus du début d'année, parce que vendre des formations, c'est très compliqué. Donc, pareil, là, on est associé avec Axel, avec Green Bull dessus. Donc, avec Yann et tout, ils vendent quand même beaucoup, déjà. Donc, mais sur la partie entrepreneuriat, ils ont rien. Et on a déjà testé des trucs qui s'étaient plantés sur la partie, tu vois, IMO Finance, tout, ils sont quasiment leaders en France. Donc là, c'est le gros challenge de tout le monde. Est-ce qu'on va flop ou est-ce qu'on va faire petite dinguerie? Donc voilà.
Ça fait des beaux challenges.
Ouais, écoute, puis après, voilà, la santé avant tout. Hein.
Mmh. Non, mais c'est important. C'est vraiment une table ronde de vieux.
C'est important. Non, mais vraiment, tu vois, voilà. Par contre, santé. Genre,
faut le dire.
Santé,
ouais, non, mais oui, bien
le
sûr.
Le sport, l'équilibre de vie et tout.
Je pense qu'en vrai, de vrai, c'est le socle de tout qui te permet de tout défoncer sur tout le reste. Donc,
C'est ça qui te donne envie de faire des choses. Ouais. Parce que si t'as pas envie, on part tous en vacances en Asie, quoi.
Ouais.
C'est clair. Moi, mes objectifs sur 2024, donc. Il y a deux axes. Le premier, avec Serial, on va avoir 4 formats sur l'année 2024, sachant que jusqu'à aujourd'hui, on n'en avait qu'un, qui était le format one-to-one classique que vous connaissez et que vous avez pratiqué. Donc, on va avoir 4 formats. J'en dis pas forcément plus aujourd'hui, mais alors, évidemment, le deuxième format, ce sera le Spicy Talk, ce format-là, qui arrivera, je pense, tous les 2-3 mois, en mode table ronde, effectivement, avec des gens qui sont déjà passés sur Serial. Il y aura évidemment le format one-to-one. Et puis en fait, si je peux le dire...
on attend que ça. On est côté où, quoi.
Il y aura un format podcast live dans un théâtre parisien avec une audience. Format intimiste, mais quelque chose de plus original encore que juste un podcast
en
live.
Avec théâtre, mais avec le public.
Ouais.
Putain, trop stylé.
Ça, c'est bon, hyper stylé.
Ça, c'est un rêve, tu vois.
Wow.
Un rêve.
Bah, tu m'étonnes.
Ah ouais.
Et ce rêve, on va le réaliser en 2024.
Putain, c'est énorme.
T'as quel kiff.
Donc ça, c'est cool. Pour l'instant, on est à l'étape zéro, mais on a envie d'exécuter assez rapidement. Et le quatrième format, je vous en parlerai à la fin du Spicy Talk. Okay.
Rester
jusqu'à la fin.
Ouais.
Alors vous avez pas le choix de toute façon.
Non.
Et ben écoutez, on va pouvoir. Alors c'est vrai que j'ai pas dit mes objectifs sur Tête de Tigre. Sur Tête de Tigre, on est à x2 sur nos objectifs de départ. On finalise notre première année compta le 31 décembre. L'idée l'année prochaine, effectivement, c'est de continuer à grossir, d'avoir une petite équipe de 6 personnes. On change de locaux en mai pour avoir des locaux un peu plus grands sur Rennes, notamment. Et voilà, globalement, l'idée, ça va être de continuer à développer des podcasts cool. Et je pense que ce sera déjà pas mal. On va pouvoir passer à la deuxième partie de cette vidéo, de ce concept Spicy Talk avec la Spicy Wheel, qui est finalement...
Finissons-en une bonne fois pour toutes.
Un concept de qualité et que je vous présenterai juste après. J'espère que cette première partie vous a plu. Toute l'émission est à retrouver en intégralité sur YouTube. La partie 2 sera disponible en audio ce mercredi 7 février à 8h.